Radio Okapi. Interface.
L'optimisation des recettes publiques passe par la culture citoyenne des paiements des taxes et impôts pour amener tous les Congolais à contribuer au développement. L'Assemblée nationale a débuté mardi dernier la réforme du système fiscal congolais. Le budget 2023 est estimé à 14,6 milliards de dollars, une première dans l'histoire de la RDC. Comment ce montant sera mobilisé et que faire pour maximiser les recettes publiques ? Interface de ce jour reçoit successivement Bishop Abraham Djamba, directeur exécutif du réseau Gouvernance économique et développement REGED, ainsi que Léon Kalambay, coordonnateur de la COSA, coordination syndicale des services d'assiette. À la coordination et présentation, Michel Kifindangoy, Interface, c'est parti. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs des radios Okapi, bienvenue dans Interface, votre émission hebdomadaire. Tout de suite, Actu Hebdo.
Interface.
L'Assemblée nationale a déclaré mardi, après débat général, recevable le projet de loi portant l'impôt sur les sociétés et les revenus des personnes physiques, ainsi que celui portant réforme des procédures fiscales. Faisant l'économie de ces deux textes, le ministre des Finances explique que le système actuel d'imposition a l'inconvénient de ne pas faire la distinction entre la fiscalité des sociétés et celle des personnes physiques. Raison pour laquelle cette réforme institue deux impôts distincts, l'impôt sur les sociétés et celui sur les personnes physiques, explique le ministre Nicolas Kazadi.
Pour préparer ce grand changement qui sera apporté par cette loi sous examen, j'ai instruit la Direction générale des impôts pour que, dès le mois de mars 2023, chacun des citoyens congolais qui perçoit des revenus salariaux soumis à l'IPR ait l'obligation d'en faire une déclaration. Ça sera la préparation au changement plus important qui interviendra en 2024. Nous devrons déclarer ce que nous avons reçu comme salaire et ce que nous avons payé comme impôt. À l'heure actuelle, cela est fait globalement. L'année prochaine, cela sera fait individuellement. Je sollicite votre collaboration pour que nous montrions au monde que nous sommes des citoyens responsables et que nous sommes conscients des exigences de changement pour davantage affirmer notre souveraineté et notre responsabilité.
Les députés nationaux soutiennent cette réforme fiscale, mais plaident pour que cet argent puisse contribuer notamment à l'entrepreneuriat des jeunes afin de lutter contre le chômage. On écoute le député national, Prince Chokola Katintima.
L'État a besoin d'argent pour faire sa politique, mais aussi pour défendre la souveraineté du pays. Vous savez, nous sommes pour le moment en période qui n'est pas facile du point de vue sécuritaire au niveau de l'Est. L'État a besoin de continuer à défendre notre souveraineté et pour cela, il a besoin de moyens. Nous avons mentionné par contre que trop d'impôts tuent l'impôt et il était important que nous demandions au ministre des précisions par rapport aux recettes qui sont attendues annuellement en moyenne, mais aussi nous avions souhaité recevoir des garanties auprès du ministre que les fonds reçus seront réellement utilisés pour le bien de la population. Vous savez, nous avons une population qui est à majorité jeune mais qui est sans emploi et nous avons proposé au ministre que l'argent qui viendra de ces impôts puisse contribuer à la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Donc il va y avoir beaucoup de business qui seront créés. Et quand les business sont créés, c'est la population qui gagne. Ce sont mes électeurs de Walungu qui gagnent.
Pour sa part, le député national Hubert Makengo estime que cette réforme tombe fort à propos car elle va susciter et asseoir la culture fiscale en RDC. Il insiste sur la nécessité pour tout citoyen de comprendre à travers cette réforme l'utilité de payer régulièrement les taxes et impôts afin de contribuer à la modernisation du pays. Hubert Makengo.
L'innovation, c'est d'abord un fait. On va susciter cette culture fiscale. Tout le monde doit être éduqué de manière à ce que dans ce qu'il déploie comme activité, ce n'est pas une activité où il doit produire de manière égoïste, mais il doit aussi prévoir quelque chose qui doit être partagé par l'État. Les gens se lamentent. Par exemple, ils ont des champs et ils disent, voilà, il n'y a pas de route pour accéder, pour arriver jusqu'au niveau de ces fermes-là. C'est avantageux pour eux-mêmes à ce que, à travers ces contributions, l'État puisse acquérir des moyens, les fonds nationaux d'entretien routier puissent débloquer quelque chose pour donner aux routes de dessertes agricoles. Et on va alors travailler la route et ils seront accessibles. Et la commercialisation de leurs produits sera facilitée. Donc, la culture de payer ses impôts, ça doit être vraiment une obligation à tout citoyen qui veut le développement de son pays.
Interface.
Le Premier ministre Jean-Michel Samalo Kondé a présenté à l'Assemblée nationale un budget de plus de 14,6 milliards de dollars, une première dans l'histoire de la RDC. Jean-Michel Samalo Kondé, qui se félicite de cette performance jamais réalisée par un autre gouvernement, justifie cette croissance par le sérieux dans la gestion des finances publiques et la lutte contre le coulage des recettes, ainsi que dans la maximisation des efforts des services. Jean-Michel Samalo Kondé.
J'aimerais relever que jamais dans l'histoire récente de notre pays, un gouvernement n'est allé aussi loin, non seulement dans sa capacité à mobiliser les recettes, mais également dans son aptitude à pouvoir maîtriser le cadre macroéconomique. En 2 ans, nous sommes passés de 7,1 milliards à 14,6 milliards de dollars américains. C'est un record, même si, et nous en sommes tous conscients, la République démocratique du Congo mérite encore mieux et davantage. Notre ambition est de voir ce chiffre aller encore plus haut. Ce bond en avant n'est pas le fruit du hasard. Il est la résultante du sérieux imprimé dans la gestion et la maîtrise des finances publiques, dans la lutte contre le coulage des recettes, notamment à travers les organes de contrôle comme l'IGF, la CNRF et la Cour des comptes, ainsi que dans la maximisation des efforts des services, particulièrement au sein de nos régies financières et services d'assiette.
Cette performance est due principalement à la réforme du code minier initiée en 2018 par le président Joseph Kabila, souligne le député François Nzekouyé. La croissance de la RDC est portée par l'industrie extractive, ajoute la députée Geneviève Inagosi.
De 10 milliards, on est passé à 14 milliards. Il y a certes un accroissement, mais cet accroissement ne doit pas nous distraire ou nous faire oublier que la valeur d'un budget se mesure plutôt par la qualité de ses dépenses et non par rapport à sa hauteur. La croissance de la RDC est essentiellement portée par l'industrie extractive, en l'occurrence les mines. Compte tenu du caractère non renouvelable de ces ressources, le code minier adopté ici sous le régime Joseph Kabila avait institué le fonds minier pour les générations futures. Les données relatives à l'exécution de la loi de finances 2022 indiquent le niveau des recettes collectées au compte d'affectation spéciale FOMIN de l'ordre de 1 milliard de francs congolais contre les prévisions linéaires de 153 milliards de francs congolais, attendues de 10% des redevances minières.
Tout en saluant cette croissance du budget de 10 milliards en 2021 à 14 milliards en 2022, le député de l'Union sacrée Martin Chipama se demande tout de même comment la RDC va-t-elle parvenir à mobiliser tous ses fonds alors qu'au niveau international, le taux de croissance est en baisse.
Il s'avère important de signaler, comme énuméré dans le document numéro 1 de l'exposé des motifs, qu'il y a plusieurs défis à relever dont les incidences financières ne sont pas encore totalement déterminé, ce qui, à mon avis, pourrait impacter négativement sur la réalisation des recettes budgétaires 2023. Ainsi, ma crainte se justifie assez clairement quand je lis le document numéro 7 relatif au cadre budgétaire à moyen terme 2023-2029 qui brosse une situation globalement en baisse au fil de temps, étant donné le caractère extraverti de notre économie. Sur le tableau numéro 5, contribution sectorielle, les perspectives indiquent un taux de croissance en dessous de zéro pour la quasi-totalité des secteurs d'intérêt national. Je me demande comment, dans ces conditions, le pays compte-t-il atteindre cet accroissement de 32,7% à la fin de l'exercice budgétaire 2023.
Franc congolais, la monnaie officielle de la RDC, est un chant tiré de l'album Franc congolais, produit par plusieurs stars de la RDC en 2008. À présent, décryptons le budget 2023 dans sa partie recettes avec le directeur exécutif du réseau gouvernance économique et développement, REGED. Bishop Abraham Djamba, bonjour.
Oui, bonjour Michel.
Vous avez participé à l'élaboration du projet du budget 2023 en tant que société civile. Pouvez-vous nous faire une économie de la prévision des recettes budgétaires?
En ce qui concerne les recettes, ce qu'il faut savoir, c'est que les recettes sont réparties en recettes internes et en recettes extérieures. Les recettes internes sont catégorisées en recettes courantes, qui elles-mêmes se subdivisent en recettes d'impôts et en recettes de douanes et assises, mais aussi les recettes non fiscales qui proviennent des recettes administratives, des recettes judiciaires, des recettes domaniales, des recettes de participation, et puis les recettes pétrolières, et enfin les recettes exceptionnelles qui peuvent provenir des produits des emprunts intérieurs, c'est-à-dire le gouvernement décide d'emprunter à l'intérieur du pays, et donc c'est ce paquet-là qui constitue les recettes internes ou les recettes propres. Mais il y a aussi les recettes extérieures qui sont subdivisées en recettes d'appui budgétaire, mais aussi en recettes de financement des investissements. Donc voici comment se présente donc la configuration des recettes. Et pour ce projet de loi 2023, les recettes sont de l'ordre de 14 milliards de dollars.
Comment seront mobilisés les 14 milliards de dollars? Les recettes intérieures sont estimées à combien par rapport aux recettes extérieures?
En ce qui concerne les recettes fiscales, hors pétrolier, qui représentent 8,7 milliards de dollars, soit 81,2% des recettes internes, c'est la DGI et la DGDA qui vont les mobiliser. Tandis que les recettes non fiscales hors pétrolier, DGRAD va les mobiliser, elles représentent à peu près 1,6 milliard de dollars, soit 14,6% des recettes internes. Les recettes pétrolières représentent 304 millions de dollars, tandis que les recettes exceptionnelles, qui viendraient des emprunts internes, représente 148 millions de dollars, soit 1,4% des recettes. Donc, les recettes extérieures, qui sont de l'ordre de 3,1 milliards de dollars, soit 22,5% du budget général, proviendront de l'extérieur, comme déjà expliqué.
Au regard des prévisions en recettes fiscales, pensez-vous que ce budget reflète réellement les ambitions maximales du peuple congolais?
Si l'on considère que le budget 2023 ou les recettes 2023 sont en accroissement substantiel par rapport au budget 2022, d'à peu près 10 ou 11 000 milliards à 14 milliards, et si l'on considère que les recettes propres sont à 87,5%, eh bien on peut dire nominalement qu'il y a une ambition de maximisation des recettes. Mais en vérité, cette ambition peut être déconsidérée, je peux le dire, tant qu'il n'y a pas d'efforts qui sont fournis pour identifier correctement le nombre de justiciables, parce que au 31 décembre 2021, à notre connaissance, la DGI n'a répertorié que plus ou moins 11 627 contribuables identifiés sur l'ensemble du territoire national, ce qui semble vraiment insignifiant par rapport au potentiel existant. Et il y a la fraude fiscale et douanière qui se porte très bien, et donc cette fraude fiscale et douanière viendra annihiler les efforts véritables de maximisation des recettes. Il y a les interférences politiques et parfois même militaires, on l'a décrié, dans la mobilisation des recettes, ce qui nuit vraiment à une mobilisation des recettes conséquente. Et puis, il y a des faiblesses aussi au niveau de la collecte même des recettes, parfois les agents qui sont démoralisés, démobilisés. Voilà, tout cet ensemble de facteurs devrait être considéré si l'on veut véritablement afficher de grandes ambitions par rapport à la maximisation des recettes.
Quelle analyse faites-vous des recettes internes minières et pétrolières? Pensez-vous que toutes les ressources générées dans ces deux secteurs sont bien canalisées dans les trésors publics?
Alors, tout à l'heure, j'ai affirmé que les recettes internes étaient de l'ordre de 87,5%. En réalité, c'est 77,5%, étant donné que les recettes extérieures sont de l'ordre de 22,5%. Et dans ces recettes internes de 10 milliards, les recettes minières ne contribuent qu'à l'ordre de 38,9% de recettes internes. Et les recettes pétrolières restent toujours très faibles à 2,2% de recettes internes. Alors, c'est tout vous dire. Les recettes générées par ces deux secteurs seront-elles bien canalisées par les trésors publics? Alors, quand vous dites bien canalisées dans les trésors publics, donc nous avons tous ces problèmes de détournement des deniers publics, de fraude, de corruption. Donc, bien canalisées, la question reste posée.
Bishop Abraham Djamba, je vous remercie.
Je vous remercie.
Interface.
Quelle perception ont les Congolais de la manière dont les taxes et impôts sont perçus par l'autorité publique en RDC? Les habitants de Bunia, Kalemie, Kananga et Kindu s'expriment.
Les taxes et impôts sont constitutionnels, mais de la manière dont le gouvernement est en train de faire ces taxes-là, c'est peut-être d'une manière illégale. Nous avons aujourd'hui la multiplicité des taxes. Même les commerçants qui quittent des pays étrangers ont du mal à accéder dans notre pays.
On peut en avoir 10 taxes, mais commencer par 2 et 3, et quand l'enfant va grandir, on va arriver à 10.
Aujourd'hui au Congo, la population vit dans une misère. C'est pour cela que la population a toujours qualifié les impôts comme une sorte de tracasserie.
L'État congolais est en train de percevoir les taxes, les impôts, c'est bien pour notre futur. Nous attendons aussi les infrastructures, les routes, les hôpitaux. Si et seulement si l'État n'est pas à la hauteur de tout ce que nous attendons, donc, ce sont des taxes perçues indûment.
Légitimement, chaque taxe a toujours eu une contrepartie. Mais ce que nous constatons, en quelque sorte, la perception des taxes devient comme un moyen au travers lequel les autorités volent encore une fois de plus la population.
Le personnel n'a pas une bonne connaissance sur la fiscalité. Il y a la complaisance totale dans la perception des taxes et impôts dans notre province.
On est en train de percevoir l'impôt de façon désordonnée. Or, dans des pays qui se respectent, les choses se font de façon orthodoxe. À la fin, les citoyens constatent qu'en tout cas, l'impôt perçu sur mes avoirs ou mon salaire contribue à mon bien-être, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Ces taxes sont presque exorbitantes au point que les assujettis s'en plaignent, mais surtout, ils ne voient pas les retombées sur terrain. En payant les impôts, il faut aussi répartir ces impôts, que cela ne puisse pas bénéficier à certaines catégories et que d'autres croupissent toujours dans leur misère.
La priorité serait de prélever l'argent, d'investir, si c'est pour les infrastructures, que ça puisse aller pour la construction, d'entretenir des tronçons, tout comme ça.
Les opérateurs économiques sont vraiment désquamés parce qu'ils n'arrivent pas à réaliser des bénéfices. Ces montants n'arrivent pas dans la caisse de l'État.
Il y a des insécurités, or nous payons la taxe lundi ou lundi.
Il y a une fois qu'on a ouvert une activité, on a eu au moins 5 services qui étaient venus là. On se demande qu'est-ce qui est les services habilités pour demander les taxes.
<t'->
Nenu tani na mungu mwote Zamu na mungu kesa la lolendo la be
Me manga na ba, una na poli nzotoe, na masanga to maya glass, karate mpota si mabuku wa kisirai, bofe singa bankombo ya icho, engaye, engayo, mawao. Banangu baba, tebel bagumba na mabe, basha yamba finangai, misabiki likiye, sindeli mabe. Sika nenge na nenge bomelo mabe Tani ya mela ngai mbela ya mwana mpomo
Njichimani nuche abuko le buwena Fron kongole chintu cha mshiri mubani Ndama ipimpa
Pesanga Valère Nanga, c'est un featuring signé Jean Goubal Kalala et Fali Ipupa, sorti en 2011. Plusieurs acteurs politiques, dont le président Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Moïse Katumbi et tant d'autres, ont promis dans leur programme électoral de mobiliser pour le pays un budget de plus de 100 milliards de dollars, alors que l'ancien conseiller spécial du président honoraire Joseph Kabila, en matière de lutte contre la corruption, dénonçait il y a quelques années que plus de 15 milliards de dollars échappaient chaque année au trésor public. Pourquoi le pays n'arrive pas à mobiliser même 50 milliards de dollars et que faire pour maximiser les recettes publiques et lutter contre le coulage? Nous recevons pour boucler cette émission M. Léon Kalambay, coordonnateur de la COSA, la coordination des syndicats de services d'assiette. Monsieur Léon Kalambay, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Avec ce budget de 14 milliards de dollars, on parle de plus en plus de la croissance budgétaire. C'est quoi la croissance budgétaire?
Il faut nécessairement arriver aux assignations qui doivent amener à la totalité de ce qu'on a voté là. Prenons par exemple le cas des affaires foncières. Vous achetez une parcelle, il y a des bornes. Ces bornes-là, on va vous demander 15 dollars par pièce. Et on appelle ça frais administratifs, si on peut les mettre additionnellement par rapport aux autres éléments qu'on avait déjà. Ça met à la hausse l'augmentation des rubriques des éléments budgétaires.
Donc, en quelque sorte, pour arriver à la croissance budgétaire, il faut essayer de canaliser toutes les recettes qui entrent ça et là dans les trésors publics.
Exactement. Qu'est-ce qu'on trouve sur le terrain? Les agents de l'État là qui s'amènent, peut-être n'ont pas les frais d'émission, mais on leur donne un ordre d'émission. Allez contrôler, au premier degré s'il vous plaît. Ces gens-là vont chercher à vous donner là où vous devez dormir, un transport. Vous allez minorer ce qui doit être dû de l'État à orienter au trésor public. Et ensuite, il y a le syndicat des opérateurs économiques qu'on appelle FEC. Ils ne veulent pas qu'on puisse aller sur le terrain dans les installations de ces établissements-là pour qu'on sache ce qu'ils ont déclaré, si réellement c'est exact pour taxer.
Donc, si je vous ai bien compris, il y a un sérieux problème de fraude fiscale en République démocratique du Congo. Maintenant, comment peut-on faire pour combattre la fraude fiscale? Qu'est-ce que vous vous proposez?
Raison pour laquelle nous, le fonctionnaire de l'État, des services générateurs des recettes, nous avons compris cette difficulté. Nous nous sommes organisés à la coordination, c'est-à-dire c'est une coordination des syndicats des services d'assiette qui travaillent en synergie pour que chaque secteur cherche tout ce qui est compromettant par rapport à la gestion au niveau d'exécution, des réalisations sur le terrain. Il faut toujours dénoncer. Je vous donne un cas. Au niveau de Sud-Ubangi, il y a les expatriés. Ils exploitent de l'or sous couvert du gouverneur sortant. Et les gouverneurs actuels, ils ont signé un contrat. Alors, c'était couvert d'abord avec les directeurs de cabinet sortants de l'époque du président de la République. Notre organisation a dénoncé ces problèmes-là. Comment est-ce que l'État peut avoir l'argent dans les trésors publics pour les moyens de sa politique? Et si ça se fait à Guémen et ici à Kinshasa, au niveau des Maluku, des Kinkole, vous trouverez que il y a aussi les services de l'État qui perçoivent indûment sans document. Ce n'est pas leur rôle. Vous trouverez des militaires, des parquets, Ils taxent l'argent. Ça n'entre pas dans le trésor public. On appelle ça Maboko Bank.
Et justement, cette pratique de Maboko Bank suscite une forte tracasserie en RDC au point que le climat des affaires est sérieusement détérioré. Comment aider, par exemple, les opérateurs économiques à reconnaître les agents taxateurs des droits?
C'est une situation qui a été décantée avec l'émission de contre-vérification de l'inspection générale des finances. Mais il y a toujours des fraudes par l'influence de certaines autorités. C'est pourquoi nous dénonçons ici. Pour qu'on puisse maintenir et sécuriser, donc dans la maximisation, mobilisation et sécurisation des recettes, il faudrait qu'il y ait l'œil de la justice. Pourquoi? Il y a plusieurs dossiers qui sont en cours par nos dénonciations qui peuvent donner plus ou moins 144 millions de dollars déjà redressés. Il reste que les recouvrements par la DGRAD.
Et c'est ce qui fait brûler le torchon entre l'IGF et la DGRAD.
Voilà,
qu'en est-il au juste de ce conflit entre les deux services de l'État?
Voilà, le torchon brûle entre l'IGF et la DGRAD. Motif, les DG de la DGRAD tergiversent pour recouvrer auprès de la société Helios Tower Infraco le montant d'une valeur globale de CEDEF. 35 milliards 086, soit 21 millions de dollars redressés par l'inspection générale de finances au profit du trésor public. Ce montant ici, c'est pour une seule société. C'est pourquoi nous vous disons, il y a beaucoup d'argent, le budget peut être même au-delà de 100 000 milliards, mais les 14 milliards, ça peut se tromper.
Donc, en quelque sorte, c'est l'interventionnisme des autorités politiques qui empêche l'administration publique à faire son travail.
Même militaire, il y a des généraux qui se sont mixés dans... chaque fois qu'il y a un contrôle, ce sont eux qui interviennent avec des militaires.
Le président de la République, avant d'entrer en fonction, pendant la campagne, il promettait un budget de 100 milliards de dollars. La volonté politique y est. Mais apparemment, depuis qu'il est au pouvoir, il n'a pas tous les mécanismes pour réaliser cette promesse. Si on vous demandait aujourd'hui de prodiguer un conseil concret au président de la République, puisque vous avez reconnu que c'est possible de réaliser un budget de 100 milliards de dollars, que doit-il faire concrètement afin d'atteindre cet objectif?
Premier conseil que je peux donner au président de la République sur sa vision. Sa vision est claire. Chacun, là où il est obligé de mieux travailler pour mieux réaliser au profit du trésor public pour que le gouvernement fasse sa politique. Il y a ceux qui ont détourné 97 milliards, heureusement qu'il est mort. Et jusqu'à présent, cet argent n'était pas retourné. Donc, ce qui manque, c'est le contrôle sérieux. Si on contrôle et on punit, les gens auront peur.
Monsieur Léon Kalambayi, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Enfin, Interface, produite grâce au soutien du programme des Nations Unies pour le développement APNUD. Cette émission vous a été réalisée avec le concours d'Ezekiel Mouzaliwa, Florence Kizalunga, François Kadima et Paulin Munanga, sous la supervision de Jean-Marc Matouaki et Martin Seboujangwe. Michel Kifindangoy vous l'a coordonné et présenté. Je prends rendez-vous avec vous pour un nouveau numéro lundi prochain à 8h30. Vous pouvez suivre la rediffusion de ces numéros mercredi à 15h30 et à 22h juste. Merci de rester fidèle à Radio Okapi. Au revoir.